Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. L'été jette ses derniers feux, mais cela ne va pas nous empêcher de poursuivre nos pérégrinations poissonnières, car la saison du requin ne ferme jamais vraiment. Je suis le professeur Rico, et après une petite incartade dans l'actualité brûlante pour la dernière émission, nous allons revenir à la boîte à requins et aux films tirés au sort. Je vous en rappelle le principe, nous avons tiré deux films de requins, que nous allons voir, analyser et disséquer pour les reclasser dans une des cinq catégories suivantes. À fuir, nul, routinier, bon, incontournable. En nous aidant d'une fiche de compétences qui va nous permettre de pointer les qualités squalographiques, c'est-à-dire squalesques et cinématographiques, des films en question. Les deux films d'aujourd'hui ont la particularité d'être tous les deux assez italo-américains. Il s'agit de Jersey Shore Shark Attack de 2012 de John Shepherd et de Apocalypse dans l'océan rouge, un film de 1984 de John Hall Jr. alias Lamberto Bava. Alors, prêt à se jeter à l'eau ?
Killer albino sharks out there.
Excuse me ?
You expect me to close everything down?
My office has received several missing persons reports.
Joey Fatone has been eaten by a shark.
My God.
Get your asses off the pier, dammit!
Grab as much as you can carry.
Let's do this.
The Jersey Shore Shark Attack.
I hate sharks!
Comme les hommes et les civilisations, les phénomènes culturels sont mortels. Qui se souvient encore de Bienvenue à Jersey Shore ? L'une des plus épouvantables émissions de télé-réalité à avoir éclaboussé le petit écran au tournant des années 2010. Le principe de la télé-réalité poussait toujours plus loin dans la médiocrité dans le racolage, se consacrant plus particulièrement à une communauté, ici les Italo-Américains du New Jersey, pour s'en moquer en les faisant passer pour des quasi-phénomènes de foire. La plus-value par rapport à Love Story ordinaire, c'est que les Italiens du New Jersey ont un parler, des manières, des coutumes, qui en font des êtres un petit peu exotiques pour le reste des Américains. D'ailleurs, Jersey Shore sera le modèle pour tout un tas d'émissions, y compris sur la télé française, exploitant le concept du neuneux à accent, tels que les Ch'tis ou les Marseillais.
Hé, hey, regardez un peu. Pourquoi il y a un bateau dans le coin ?
Et pourquoi il est recouvert de sang ?
À mon avis, c'est de la sauce tomate. Quoi ? Mon père allait toujours pêcher avec des bolognaises.
Mais c'est pas à Vigny, ce Rafio ?
Lequel de Vigny ? Pas de coup ?
Non, gros Vigny la banane.
Banane, il est en Floride, mec.
Alors c'est Vigny gros cul.
Gros cul est claqué. C'est Vigny bombastique, gros.
Hé, gros naze. C'est Vigny les crabes.
Ouais, c'est lui.
Bon, bah, si c'est son bateau... Où est Vigny ?
Le principe est d'aller chercher une poignée de jeunes branleurs acculturés et superficiels, composés de culturistes DJ et de serveuses à choucroute et gros seins refaits, qu'on va surnommer les Guido et les Guidettes, qui se livrent à toutes les atrocités habituelles de ce genre de programme bas de gamme. Étaler sa vulgarité crasse, s'engueuler, baiser, s'engueuler à nouveau, le tout autour de la piscine... Vous l'aurez certainement remarqué, je ne goûte guère ce genre de programme dont l'attrait principal consiste à rassurer l'ado spectateur en lui disant « Tu vois, il y a toujours plus con que toi ». Et au début des années 2010, l'Amérique se passionne pour les aventures de Snooki, Vinny, Mike the Situation. Alors quelqu'un chez Sci-Fi a eu un jour une idée de génie. « Hey, on a déjà croisé Alerte à Malibu et des requins, pourquoi on croiserait pas Jersey Shore et des requins ?» Aussitôt dit, aussitôt fait, nous voici avec Jersey Shore, Shark Attack. Lors de travaux pour la construction d'une marina sur les côtes du New Jersey, les ondes émises par les appareils de forage attirent des requins taureaux albinos qui vivaient cachés dans des grottes sous-marines. Seuls pour se dresser face aux monstres, une poignée de copies grossières des candidats de la télé-réalité vont pouvoir sauver The Garden State. Alors, avant de continuer sur les personnages, je voudrais m'arrêter une seconde sur les requins en images de synthèse. Ils sont moches, mais alors moches! Je veux dire, même en 2012, avec pas beaucoup de moyens, il y avait des cinématiques de PS2 qui étaient mieux faites. C'est vraiment la honte. Ils sont tout blancs, tout lisses, avec des yeux rouges inexpressifs, pixelisant à mort, et quand il faut faire des combats rapprochés, on a une espèce de poupée en caoutchouc qui est la moins crédible possible, et dont on va réutiliser les mêmes plans à l'infini pour faire croire qu'on a une armée de requins à disposition. Affreux. Je vous passe vite fait sur l'histoire qui est d'une banalité affligeante, avec des bétonneurs véreux, avec des politiciens corrompus, et surtout l'affrontement des Italo-Vulgos face à des gosses de riches bien wasp, le genre Apollo et Amesh un peu méprisants qui paradent dans leur country club. C'est évidemment le prétexte pour se moquer de tout ce petit monde avec des dialogues d'une bêtise infinie, que la VF même a du mal à suivre tant il y a de références ultra pointues à de la télé-réalité de l'époque et à des semi-célébrités complètement oubliées depuis. Vous imaginez Nabila et Jean Moundir qui nous refont les dents de la mer, ben c'est à peu près ça. Alors là, il y a deux solutions, soit on rejette complètement en bloc, soit on rentre dans le fait que c'est quand même un petit peu une parodie, que le film est volontairement outrancier, tout le monde en fait des tonnes, et on finit par ricaner nerveusement en voyant ces crétins qui essaient d'appâter les requins avec des barres de protéines au beurre de cacahuète pour musculation, ou qui essaient de les démastiquer avec des feux d'artifice, à grands coups de « ouais, trop la classe gros ».
Nuki ?
On a appris pour JP. Je suis désolée. Ce sale bâtard de Bradford.
On va chez lui et on fout le feu.
Avant, on noie son pote, le schtroumpf.
Eh, hey, relax. Même si j'en veux aussi à Bradford, tout n'est pas de sa faute.
Tu dis qu'il s'est noyé, alors ?
Même pas en rêve, JP est le meilleur nageur de la côte. Personne va aussi vite avec de si petites jambes.
Et Polly a raison. C'est impossible qu'il se soit noyé. Quelque chose d'autre l'a fait.
Tu veux dire qu'il a été attaqué par un machin ? Genre quoi ? Je sais pas trop. À mon avis, c'est une raie. Les trucs qui piquent tout plat. Il y a un Anglais qui est mort comme ça.
Non. Un requin. Il y en a plein qui se promènent sur la côte.
Déconne pas, ici, c'est en Floride. On n'a que des flétans, ici.
Ouais. Est-ce que les flétans, ça a des dents ?
Bon, globalement, le principal défaut, c'est que ça reste tout de même assez minable, avec de longues plages de remplissage avec les crétins de la télé-réalité, et puis des attaques beaucoup trop ponctuelles, et qui sont souvent filmées de façon assez catastrophique. Le réalisateur John Sheffield, c'est un faiseur qui a aligné des petits films, et qui filme le plus utilitaire possible sans la moindre personnalité. Il secoue sa caméra très fort lors des attaques, réutilise beaucoup les mêmes images de synthèse, le tout en détournant de façon assez grossière les codes visuels et l'éthique de montage de l'émission d'origine. Sinon, dans les petites plus-values du film, une kyrielle de second rôle assez sympa, vue dans pas mal de films et de séries télé. Jack Scalia, une vieille star de vidéoclub des années 80 qui vient jouer le shérif. Paul Sorvino, en maire véreux. William Atherton, spécialisé dans les rôles de sale type, qui a joué le journaliste fouille-merde dans Piège de cristal, ou l'employé municipal de New York qui veut absolument fermer les Ghostbusters. Eh bien, il est là, et il joue évidemment le promoteur qui va tout déclencher par ses manigances. Citons encore Tony Sirico, que vous connaissez comme Polly dans Les Sopranos, qui se passait d'ailleurs au New Jersey. Bon, la plupart des acteurs font juste acte de présence et sont pas particulièrement enthousiastes pour débiter leur texte, voyant bien dans quoi ils tournent. Dernier détail rigolo, le film n'est absolument pas tourné au New Jersey mais en Californie, mais ça fait illusion. La bande originale que vous entendez derrière, de Mark Giovanni et Andres Boulton, est solide. Très classique. Sans grande surprise. Mais fait le taf honnêtement. Bref, un produit finalement assez oubliable, si ce n'est cette vision d'apocalypse au final, où les ersatz de casting de télé-réalité, armes automatiques en main, se mettent à défourailler sur les requins comme des malades en hurlant « Wesh gros !» Il y a là de quoi faire le film d'horreur ultime, la dégénérescence de la civilisation occidentale. Imaginez les anges de la télé-réalité, calache en main, qui débarquent en ville pour faire régner la terreur. Messieurs les producteurs, je me tiens à votre disposition pour mettre ça sur pays.
Pas vrai, mais tu vas m'ouvrir la porte, enfoiré ! Bouge-toi le verge !
Putain, tu peux pas aller en faire chier un autre !
Allô ?
Quoi ?
Avec qui il baise ?
Quoi ?
Alors, les compétences holographiques de Jerzy Shore Shark Attack. Alors, au passage, on m'a signalé que j'avais pu me tromper par le passé sur le total de points de certains films. Je tiens quand même à rappeler qu'étant professeur, ce n'est pas moi qui me trompe, c'est l'élève qui a mal compris les appréciations. Donc la note finale reste la note définitive du film. Et en matière de film de requin, il n'y a pas de commission d'appel. Originalité insuffisamment acquis. La seule idée neuve, c'est d'en rajouter des personnages issus de télé-réalité. Voilà, c'est tout. Histoire non acquis, parce que finalement, ça ne raconte rien. C'est juste une succession de scénettes avec des personnages idiots et des requins idiots. Personnages en cours d'acquisition. Finalement, la parodie des personnages de George Eshore est plutôt réussie. Et puis, l'avalanche de second rôle sympathique fait que, voilà, c'est un petit peu le seul point qui peut sauver ce film. Parce que l'ambiance, elle est insuffisamment acquise, hein. Il se passe pas grand-chose. Et puis, y a des longues plages de dialogue pas très très intéressantes. La réalisation, elle est insuffisamment acquise aussi, c'est filmé plan-plan, uniquement utilitaire, John Shepard, c'est pas le réalisateur de l'année. Quant aux requins, c'est non acquis. Ils sont absolument moches, que ce soit leur version informatique, que ce soit leur version réelle. Et j'ai rarement vu des requins aussi mal fichus. Ce qui normalement nous donne un total de 5 sur 20, je vais le gratifier d'un petit 0,5, parce que certains dialogues sont tellement cons qu'ils ont réussi à me faire rire quand même. 5,5 sur 20, George Eshore Shark Attack est nul, clairement nul, et même pas très drôle, à voir sur la longueur comme un nanar. A noter d'ailleurs que la série George Eshore va disparaître en 2012, il va y avoir une tentative pour la remettre sur les rails en 2018, mais les taux d'audience sont tellement bas qu'il va être difficile de continuer tout ça. La hype est passée, heureusement, parce que franchement, le New Jersey et les Italo-Américains méritaient mieux. À force d'exalter la médiocrité et la vulgarité de ce genre de programme, ils vont finir par se retrouver avec un président de télé-réalité à la Maison Blanche si ça continue. Restons donc loin de l'Italie et des États-Unis, avec notre second film, Apocalypse dans l'Océan Rouge, alias le monstre de l'Océan Rouge, alias Shark, le monstre de l'Apocalypse. Bref, un film qui se la donne. Lamberto Bava, c'est à toi.
What the hell is that?
Whatever it is, I wouldn't want to rub it the wrong way.
I'm not an expert, but these don't look like the teeth marks of a shark to me.
It's not a shark.
I think I can safely say that the creature found in your part of the ocean is a living fossil.
Des incidents de plus en plus curieux se multiplient dans une petite ville côtière de Floride. Un corps mutilé est repêché par les gardes-côtes après un naufrage. Les dauphins du parc aquatique voisin s'affolent. Un océanographe manque de voir son bateau renversé par une force mystérieuse. Visiblement, quelque chose rôde, et semble bien plus féroce qu'un simple requin ordinaire. Tout ça semble lié à un laboratoire voisin où se trament d'étranges expériences génétiques. D'ailleurs, les personnes qui en savent un peu trop se retrouvent vite victimes d'un tueur bien décidé à étouffer l'affaire. Alors que le shérif se gratte la tête devant le bizarrerie de cette affaire, un petit groupe de scientifiques décide de partir en mer pour voir ce qui se cache sous les eaux. Dans les années 80, le cinéma bis italien est de plus en plus en difficulté. Coincé entre un cinéma d'action de plus en plus hégémonique et des salles de quartier qui se vident au profit de la télévision berlusconienne. Alors, pour compenser, il copie de plus en plus les grands succès américains pour essayer de rester à flot. D'où une vague de sous Rambo, sous Mad Max, sous Indiana Jones et bien sûr de sous Dents de la Mer. Et en 84, cet apocalypse dans l'océan rouge, alias le monstre de l'océan rouge, arrive un peu en retardataire et synthétise plusieurs autres films animaliers du même genre. Comme Tentacule, l'attaque des piranhas. Aux commandes, Lamberto Bava, le fils du célèbre Mario Bava, qui a révolutionné l'horreur dans les années 60 et posé les bases du giallo. Or, si Lamberto n'a pas le génie cinématographique de son glorieux paternel, c'est quand même un solide professionnel qui sait y faire quand il s'agit de créer un film vendeur. Même s'il arrive en fin de vie du cinéma bis italien, il n'a que quelques films derrière lui. Son œuvre la plus connue sera pour la télévision avec la série de La Caverne de la Rose d'Or avec Alexandra Martinez en Fantagaro, mais il a aussi beaucoup œuvré dans le fantastique et donnera quelques films bien azimutés comme Démon ou Démon 2.
Je n'ai jamais entendu des sons de ce genre-là.
C'est vrai, mais on ne peut pas les définir. Moi, il me semble que c'est un être fantasmagorique qui jette la terreur dans toute la faune aquatique.
Est-ce qu'on peut l'identifier par l'écoute de ce qu'on a enregistré?
Peut-être bien, mais nous n'avons pas malheureusement ce qu'il faut.
Avec tous les appareils que West a dans son laboratoire, ça irait. L'ennui, c'est qu'il ne voudra pas m'aider.
Nous voici donc avec un film de Sharkspotation plutôt sympa, même s'il accuse sérieusement son âge et ses moyens limités. À commencer par son monstre, un fossile vivant pas terriblement convaincant. Bah oui, parce que pour une fois, nous allons faire une entorse à notre politique Shark Only pour mettre à l'honneur un hybride requin-pieuvre particulièrement croquignolé. Imaginez une grosse boule orange avec une forêt de tentacules en caoutchouc autour et des grandes dents pointues. Car pour créer le monstre maritime ultime, les savants fous ont pioché un petit peu partout dans le patrimoine génétique des animaux les plus dangereux. Requin pour la dentition, pieuvre pour les tentacules, et même, nous dit le scénar, un peu de l'intelligence du dauphin, même si là, au vu du comportement de la bête, je crains que la greffe n'ait pas totalement pris. Et là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec un beau Cranios Monster qui nanardise immédiatement le film. D'ailleurs, une de mes premières chroniques pour Nanarland. Faut reconnaître que Lamberto, voyant un petit peu le résultat, s'est dit « je vais peut-être pas trop la montrer, la bestiole. Hein. On va la cacher, on va la jouer à la Spielberg avec son requin mécanique. Il va s'agir de gérer le suspense. » Donc on va nous le montrer de façon plutôt furtive, quelques gros plans flous en bougeant la caméra. Et puis surtout, on le chasse avec le summum de la technologie de 1984. Soit avec des simulations d'ordinateur sur MO5 ou Commodore 64 avec 16 couleurs maxi, soit sur des téléviseurs à basse résolution où on voit une grosse tache floue qui bouge. Bref, le top de la technologie de l'époque, et ça pique un peu les yeux arrivé en 2018. D'ailleurs, le monstre sera le principal problème de Lamberto Bava qui ne devait pas réaliser ce film au départ, c'était Sergio Martino, un autre vétéran du bis italien qui devait s'y coller puisqu'il avait un peu touché au scénario avec d'autres comme Luigi Cozzi. Ce qui fait qu'au final, Lamberto Bava finira par plus ou moins désavouer ce film, en reconnaissant notamment que le monstre n'était vraiment pas à la hauteur de ce qu'il avait imaginé au départ. Mais bon, fallait tenir les délais, fallait tenir la production.
Mais pourquoi avoir créé ce monstre? Cette possibilité m'était offerte par ce monstre. Il devait obéir à mes ordres et être pratiquement invincible. J'ai rassemblé dans son code génétique l'agressivité du requin blanc, la force d'une pieuvre géante, l'intelligence d'un dauphin et la monstruosité d'un poisson datant de la préhistoire. Vous êtes malade.
Non, Donald. Désolé, c'est toi qui es malade. Si tu refuses de nous aider à manipuler pour nous cette force, ce monstre permettra d'avoir la puissance. La WOI ainsi arrivera à soumettre le monde entier. Le comprends-tu?
Une femme comme toi, Sonia, devient pire qu'une sale chienne. Je pense que le fait d'avoir pensé à offrir à ton mari et à ton amant la même montre prouve bien que tu n'as plus aucune retenue.
Autre chose qui n'aide pas beaucoup le film, le choix des acteurs. Alors, s'il reprend quelques vétérans du bis italien des années 60, dont Jenny Garco, Dagmar Lassander, William Berger, pour la plupart des seconds rôles, ils choisissent ces héros d'abord pour le physique et ensuite pour leur qualité d'acteur. Ces héros d'ailleurs ne feront pas une gigantesque carrière. Le jeune premier est incarné par Michael Sofkis, un ancien marin qui a effectivement une vague ressemblance avec Terence Hill, mais qui, comme il l'avouera lui-même en interview, n'avait pas grand-chose à faire du cinéma, fera 4 films en Italie, et puis retournera aux États-Unis se lancer dans le commerce du verre. Quant au premier rôle féminin, il est tenu par Valentine Meunier, une mystérieuse française qui a été top modèle dans les années 70, et qui a tourné quelques films en Italie avant de disparaître complètement de la circulation. Les deux sont charmants, mais ne savent absolument pas jouer la comédie. Faut dire qu'ils sont pas aidés par une VF d'époque particulièrement croquignolette, probablement d'ailleurs d'origine québécoise, où les doubleurs n'en ont visiblement rien à foutre, et balancent leur texte dans le plus parfait détachement.
J'ai examiné ses empreintes en fonction de cela. Ensuite, j'ai fait un relevé complet de ses notes au computer. Celui-ci les a comparés
avec les données essentielles
de l'Institut de paléontologie. Naturellement, les conclusions que je vais vous donner n'ont pas un caractère définitif, mais à vrai dire, elles sont fort avancées, car nous croyons que celui qui sème la terreur chez vous est un fossile vivant.
Quoi, un fossile vivant?
Fantastique.
Écoutez, un fossile ou n'importe quoi, c'est un dangereux. Et moi, je dois le tuer avant qu'il ne fasse un autre massacre.
Mais vous plaisantez? Vous voudriez tuer une créature qui date du Crétacé?
Vous n'aurez qu'à le faire empailler.
Sa capture est beaucoup plus importante pour l'avenir de la science.
Docteur S. Bates, on dirait que vous nous parlez d'un gentil poisson pour votre aquarium, et pas d'un énorme monstre, pouvant faire chavirer de très grosses barques.
Abordons maintenant les compétences holographiques d'Apocalypse dans l'océan Rouge. En n'oubliant pas de le replacer dans son contexte du début des années 80, ce qui, je le sais à l'avance, va générer chez moi une certaine tendresse et une certaine nostalgie qui pourra m'amener à être plus tendre pour ce film que pour un produit plus récent. Originalité. En cours d'acquisition parce que, au début des années 80, l'idée de faire un hybride requin-pieuvre est encore assez frais, les magouilles façon savant fou, ça reste encore, pour le début des années 80, relativement original. Histoire insuffisamment acquis, parce que une fois le concept posé, le film déroule de façon assez plan-plan son histoire et ménage relativement peu de surprises, on voit les choses venir d'assez loin. Personnage, c'est insuffisamment acquis. Les têtes d'affiche sont fadas au possible, les seconds rôles font bien leur travail, mais le doublage est tellement catastrophique. Ambiance, insuffisamment acquis. Il y a peu de gore, les scènes d'action sont assez peu nombreuses, et il y a pas mal de remplissage avec de longues plages de dialogue. Néanmoins, il faut accorder à Lamberto Bava une réalisation en cours d'acquisition. C'est assez efficace. Lamberto sait transcender un petit peu la faiblesse de son monstre et de son argument par une réalisation assez nerveuse, notamment dans les scènes d'attaque. C'est juste un petit peu dommage qu'il s'égare par moments avec des images un peu de style publicitaire, avec coucher de soleil et gens qui se bécotent sur la plage. Requin, Bananaki. Non, franchement, le monstre il est terrible et en plus on le voit quasiment pas. C'est vraiment dommage parce que si Lamberto avait assumé son monstre et nous l'avait montré à fond, eh ben je pense que on se serait quand même encore plus marré. Cela nous fait un total de 7 sur 20. Je vais rajouter un point, à la fois pour l'ambiance années 80, le côté un petit peu nanard de l'ensemble, et surtout pour la musique. La bande originale de Fabio Frizzi est un petit chef-d'œuvre de synthé, comme les Italiens savaient en faire sur leurs films d'horreur, alternant des thèmes angoissants et des petites mélodies qui vont vous rester dans la tête. Ce qui nous donne un total de 8 sur 20. Soyons honnêtes, Apocalypse dans l'océan Rouge est assez routinier, et ce n'est pas le meilleur de la production italienne de cette époque, ni le pire. Mais c'est un film qui aura toujours une place à part dans mon petit cœur d'amateur de bis italien des années 80. Voilà, nous avons fait le tour pour aujourd'hui. Il est temps de jeter un petit coup d'œil à ce que nous allons analyser dans la prochaine émission. Alors, premier film, Shark Hunter de Matt Codd, 2001. Je ne connaissais pas celui-là. Bon. Deuxième film, Raiders of the Lost Shark de Brett Kelly, en 2015. Eh ben, et donc là, je tape dans les obscurs. Hein. Pour boucler cette émission, quelques recommandations rapides. Une chaîne YouTube américaine, Rosatron, spécialisée dans l'analyse du cinéma d'horreur et du cinéma d'action, qui a sorti en mai dernier une chouette vidéo, What's Make a Great Killer Shark. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description du podcast. Une analyse pertinente sur ce qui fait les très bons films de requins, notamment dans la mise en scène et dans l'approche que l'on a de la menace. Sinon, si vous passez par Paris le 21 septembre, je ne saurais trop vous conseiller d'aller faire un tour à la Cantada, dont je vous avais déjà parlé par le passé dans le 11e arrondissement, pour assister à la projection de Sharkenstein dans la série Cinéma de Clapier. Un film de Marc Polonia absolument épouvantable, mais on peut parier qu'avec la fine équipe de la Cantada, l'ambiance va être au rendez-vous. Et puis après, vous avez, deux jours après, La Nuit Nanarland, mais ça, je vais quand même pas vous seriner systématiquement avec ça. Bon, où se retrouver? Eh bien, sur Twitter, The Ultimate Rico, sur le podcast Nanarland dans le label Riviera Ferraille, nous reprenons nos activités en octobre. On a deux émissions d'avance. Vous allez vous régaler. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'été. On se retrouve pour l'arrivée de l'automne, mais rassurez-vous, les requins seront toujours là. N'empêche, vous pouvez retourner vous baigner.